Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui... avec des enfants.
Hello!
Hello! Et bienvenue dans ce nouvel épisode captivant. On vous laisse deviner ce qu'on voulait dire dans l'intro. On verra jusqu'où vous mène votre imagination. J'espère que vous n'êtes pas trop tordus. Nous, en tout cas, on pensait qu'à des choses bon enfant rigolotes. Et on en reparlera un peu plus tard avec Merton dans les news.
Faites attention à vos sourcils.
On va donc commencer avec les news.
Ouais. Faites attention à vos sourcils.
Voilà.
J'ai un indice.
Ah. Ouais, ouais.
Et on mange des Twix.
Ok. Et donc, on va commencer l'émission avec News. Ça vous a beaucoup plu, donc on recommence cette semaine. On enchaînera avec nos séries dans les bacs. On va parler d'Enfer et Parodie, de reportage, de Spirou numéro 52. Je vais faire ma splash page, c'est mon tour, et on va parler de The Walking Dead, la BD qu'il faut faire lire à ses amis pour qu'ils nous offrent la suite. Et on finira par un petit online avec le fantastique The Realist d'Azaf Hanouka. Ben, on commence tout de suite, et on va dire bonjour à Merton.
C'est les News.
Bonjour à tous.
Salut Merton.
Hello.
Alors on a pas mal de trucs hein, depuis le mois dernier, il s'en est passé des choses.
Ben oui, ça bouge pas mal et c'est vrai que là en plus il y a eu de la grosse actu et pas forcément très très cool, surtout sur la BD sur internet.
Oui mais il y a l'actu la plus cool du monde de la BD qui arrive,
ouais,
c'est que le 13 décembre quand même, on fête nos 2 ans Thio.
Ah,
deux ans.
C'est vrai, c'est vrai.
2 ans de vie de couple podcastique. C'est les noces de je ne sais pas quoi.
Ne me touche pas. Non. Ouais.
C'est après les noces de Côte-Nantes, c'est pas Coton ou c'est un truc comme ça. Non, c'est ça, c'est 5 ans. Non, c'est bien.
C'est les noces de PQ.
Ouais, c'est
Et donc, pour ça, on va faire un super gros live, donc on a déjà parlé. On va commencer vers 21h, ce qui veut peut-être plus dire 21h30, parce que je sens que techniquement, vu que c'est la première fois, on va bien rigoler.
Je serai à l'heure aussi.
Et on va avoir plein de poditeurs qui vont venir participer pour nous faire des petites chroniques. Toi, Merton, aussi, tu seras là.
Ouais, je me suis incrusté, oui.
Voilà, et ça va être en live sur le site de Bad Geek. Ça a l'air de fonctionner, j'ai fait quelques tests et ça devrait être trop bien. Donc c'est mardi prochain à 21h.
Alors venez, chers poditeurs, venez, venez, on vous attend nombreux.
Voilà, ça va être trop bien.
Joyeux bordel, ouais.
C'est ça qui est trop bien.
Ça va être trop bien, mais ça va être un joyeux bordel.
La TVA sur les livres.
Eh oui.
Sujet qui fait peur.
Bah, qui fait peur, ouais. Enfin, ça a pas mal bougé ces derniers temps. C'est-à-dire que pour le moment, bah, je ne sais pas si tous les poditeurs le savent, mais le livre est considéré comme un produit à part, hein, parce que c'est culturel, tout ça. Et il y a une TVA qui est à 5,5 sur bah, tous les bouquins, en fait. Et le gouvernement, qui a besoin d'aller chercher de l'argent un peu partout, parce que c'est la crise, a décidé que le livre n'était pas un produit de première nécessité et qu'il fallait garder une TVA réduite quand même, mais l'augmenter à 7%. Ce qui va faire que, bah, normalement, dès 2012, on va payer nos BD préférés encore plus cher. Voilà.
Ça va être rigolo.
Donc, bah, rigolo, je sais pas. En tout cas, les auteurs, eux, rigolent, hein, parce que faut savoir que leurs droits à eux sont calculés à partir du prix non taxé. Donc, ça sera forcément un manque à gagner à la fin quelque part, quoi.
Oui, et puis surtout que, comme pour toute augmentation, les éditeurs vont profiter pour répercuter les augmentations qu'ils n'ont pas fait en cours d'année sur les bouquins.
Exactement.
Parce que bon, il y a le prix du papier qui augmente, je veux dire, les coûts augmentent et les prix des BD n'augmentent pas forcément, même si depuis qu'ils ont décidé de, rien que pour nous faire chier, faire des DE, des DA, des DU, des GGL, des codes prix sur les bouquins, ils peuvent les changer en cours de route sans devoir tout réimprimer. C'est vrai que, en général, ils ont une bonne excuse pour faire une augmentation et répercuter les augmentations qu'eux ont dû subir vis-à-vis du prix des matières premières.
Exactement, et puis c'est vrai que la librairie et la bande dessinée en particulier, c'est un secteur qui est vraiment très compliqué, alors faut aller chercher l'argent là où il est, quoi. Donc on risque dès 2012 de payer un peu plus cher. Alors là, pour le moment, c'est un peu bloqué parce que le Sénat, qui est à gauche pour le moment, a décidé de retoquer la TVA, l'augmentation de TVA sur les livres. On en est là pour le moment. Évidemment, le budget, c'est l'Assemblée nationale qui, elle, est à droite, qui va trancher. Donc, on est dans l'expectative et on attend. On sait
le
pas
Sénat
trop
à
ce
gauche
va se passer.
A dit non.
C'est ça. Oui, oui. C'est vraiment très étonnant.
Mais c'est l'Assemblée nationale à droite qui doit décider.
Voilà.
C'est rigolo.
En fait, l'Assemblée nationale a dit oui, le Sénat a dit non et ça revient à l'Assemblée nationale. Alors, bon, on sait un peu comment ça va se passer.
2%, ça va faire combien? Ça va faire 10 centimes, allez,
ouais, 10, 20 centimes, mais ça va être augmenté à 50, quoi, au final.
Ouais, enfin, en fait...
Ça va augmenter à 50 centimes, au final. Une augmentation de 10, 20 centimes, ils vont la mettre à 50 centimes, les éditeurs. Parce que ouais. T'as aussi le coût du prix psychologique.
C'est ça, c'est-à-dire que je sais plus, j'avais vu passer un tweet d'un éditeur qui disait qu'en gros, au lieu de 12 euros à peu près, ça passerait vers 12,20 euros, mais il y a de grandes chances que ça passe à 12,50 parce que c'est un prix rond et que c'est pas mal, quoi.
C'est plus facile.
C'est ça.
Mais heureusement, le TVA sur le livre numérique va baisser. Apparemment, ils ont un projet de loi de faire ça.
C'est ça, c'est-à-dire que dans le même temps, ils font baisser la TVA sur le livre numérique, ce qui est pas
mal. Il y a 19,6 pour le moment. Hein.
C'est ça. Oui, parce que pour le moment, c'est pas considéré comme un livre, c'est considéré comme un truc sur l'internet. Alors du coup, c'est 19,6 parce que c'est sur l'internet. Alors voilà.
C'est pas super considéré. Je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est livre numérique, à l'excellent podcast l'Agence Too Geek, qui dans un de ses derniers épisodes a parlé du livre numérique. Alors ils ont fait un premier épisode où ils parlaient beaucoup de techniques, et apparemment ils vont en faire un prochain plus sur l'économie et la forme du livre numérique. C'était super intéressant, moi j'adore.
Je n'ai pas écouté ce podcast, mais j'irai avec un grand plaisir.
C'est assez super intéressant.
Mais encore une fois, le livre numérique sauvera pas les petits libraires de quartier, quoi. Enfin, il y a aussi ce problème-là. Enfin, si la TVA continue de monter, peut-être que oui. Enfin, justement, on ira chercher ailleurs, quoi. Et c'est un peu un problème.
Il restera plus que les grosses boutiques de vente, quoi. Déjà, quand tu vois que le nombre de libraires a déjà quand même bien diminué, puisqu'il en reste que quelques... Il reste les têtes de gondole, on va dire, moi je vois sur Marseille.
Alors, en France, on a du bol, hein. En France, on a du bol. Hein. On a autant de libraires ici qu'aux États-Unis ou quoi que ce soit, parce que le prix unique les a quand même sauvés.
Il y a quand même autant de libraires, une librairie indépendante en France, que sur tous les États-Unis.
Ouais.
Tu vois la surface du pays, quoi.
Oui, mais là-bas, c'est les grandes surfaces qui vendent tous les livres, quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que
comme ils n'ont pas de prix unique en plus, tu vois, les grandes surfaces, sur le Harry Potter, ils ont pu faire blaaah.
C'est ça. La France, c'est le seul pays au monde où Harry Potter a fait gagner du pognon aux libraires. Enfin, grâce au prix unique et à tout ça. Donc, voilà. Mais c'est de plus en plus menacé. Et puis, du coup, les auteurs derrière, c'est pareil. S'ils vendent moins de bouquins, ils pourront en sortir moins. Parce que de toute façon, ils n'auront pas de quoi vivre décemment. C'est déjà un peu compliqué pour eux. Donc, voilà, vu que c'est la crise, hein, c'est vraiment dramatique. Et puis, du coup, les éditeurs, pareil. Parce que s'ils n'ont pas de rentrée, ils sortiront moins de bouquins, etc. Donc voilà, c'est pas forcément un projet qui risque d'aider le secteur.
La censure de la bande dessinée en ligne, vu qu'on est un petit peu sur le sujet du en ligne, on a eu deux cas ce mois-ci qui ont pas mal fait parler. On va commencer par celui qui est le plus sujet à débat.
D'accord.
C'est la censure de Pirate Sourcil. Donc Pirate Sourcil est un blogueur qui fait plein de BD trash rigolotes avec un humour noir, débile, limite sexuel, mais avec des dessins tout mignons, ce qui fait que ça tape encore plus.
C'est ça, c'est exactement ça.
Qui a fait en fait un sketch avec une chute au niveau du sketch avec... plus qu'une allusion, mais une remarque très pédophile.
Oui, non, mais c'était une blague de très très mauvais goût.
C'était de mauvais goût. Moi, je l'ai lu, j'ai fait oh, il est allé loin le mec.
Ouais, mais il est toujours comme ça. Enfin, si tu lis un peu, parce que là, donc la police y est tombée dessus pour ce dessin, mais si tu lis un peu ce qu'il a fait avant, il y en a des pires, quoi. Enfin.
On lui a demandé en fait de retirer la chute du gag parce que c'était comme quoi ça serait une incitation à la pédophilie.
Voilà.
Ce qui, que la blague ait fait rire ou pas, n'était pas du tout le cas. C'était une blague à la con.
C'est ça. Non, mais enfin, on rentre dans une société où, enfin, la morale, c'est les bien-pensants qu'on gagnait, quoi. C'est-à-dire que, alors, ok, c'est peut-être pas drôle et tout ça. Enfin, on s'en fout. Mais est-ce qu'il fallait que les flics arrivent, enfin, l'appellent et lui disent, allez, supprime ça parce que vraiment, enfin, je sais pas, ça reste que de la BD. Ça pose problème. Quoi.
Il aurait fait la même blague sur les blondes, ça serait passé.
Mais oui, parce que de toute façon,
sur les juifs, les arabes, les PD, non.
Non, c'est interdit ça.
Parce que les blagues sur les juifs, non, parce qu'eux, ils ont des organismes de défense de leur image.
Les noirs, ça peut passer si tu te débrouilles bien, mais pas
les noirs, ils sont plus cool, ils le prennent mieux. Mais c'est vrai que les blondes n'ont pas d'organisme de défense des blondes. Il faudrait qu'on le fasse.
Non, regarde, il commence à y avoir les intégristes cathos qui commencent à monter en puissance.
Ouais, c'est vrai aussi.
Ils passent à la télé, tu vois, donc.
C'est vrai, c'est vrai.
Dégommer des œuvres d'art et tout ça, donc non, faut faire gaffe, on n'est plus à l'abri nulle part.
Dans une super pièce de théâtre basée sur une œuvre de Marc Dubuisson qu'ils ont essayé de déclater, La Nostalgie de Dieu.
Mais enfin, moi, je trouve ça vraiment grave, quoi, parce que enfin que les flics arrivent et surveillent absolument tout ce qui se passe en ligne et qu'on puisse même plus faire des blagues un peu limite. Vraiment, je sais pas où va le web aujourd'hui, mais ça me plaît pas trop, quoi.
T'as le gars aussi qui avait fait sur le Bon Coin qui voulait vendre ses gamins, qui a trop servi.
Ouais, mais oui, mais enfin, le web a toujours été un endroit où tu pouvais faire des trucs potaches, des trucs. Enfin, voilà, la moitié de ce qu'on appelle les mèmes et tout ça, c'est des trucs. Enfin, voilà, c'est des trucs de gros débiles en fait. Et ça marche, c'est rigolo. Ou on rit ou on rit pas, parce que vraiment là, bon, c'était pas. Ça m'a pas fait marrer plus que ça, mais envoyer les flics, c'est quand même hard, quoi.
Ouais, c'était un peu violent.
Surtout qu'ils ont peut-être autre chose à faire.
Ouais, en plus.
Bon,
ouais.
Là, on est sur la société contre Pirates Sourcils. Maintenant, on va être contre l'entreprise, contre Laurel. Et nous allons parler de l'effet Barbara Streisand.
Ah oui, Barbara Streisand.
C'est l'effet Grenet.
Ça en jette hein, comme nom d'effet. Hein.
Non, c'est bien, c'est bien. Pour la petite histoire, l'effet Barbara Streisand. Barbara Streisand a essayé. Elle était sur la plage nue et un photographe était là et elle l'a photographiée. Et en faisant un procès au photographe pour ne pas que les photos soient
attends, 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 juste deux secondes. C'est une photo récente.
Non. Je sais
non,
pas.
Parce que je dis Barbara Streisand maintenant.
Ouais, mais enfin voilà.
Elle est toute jeune quand même.
Faut envoyer les flics toujours... pour faire censurer les images. Là, c'est de la gérontophilie, ça craint.
Mais en tout cas, en essayant.
Incitation à faire des trucs avec des vieux. Ah,
c'est horrible, mon Dieu. Mais en tout cas, en essayant de faire supprimer les images de l'internet, la seule chose qu'elle a réussi à faire, c'est que elles se sont déployées absolument partout parce que tout le monde parlait du procès et allait chercher les images. Les sites miroirs ont fleuri un peu partout. Et voilà. Et depuis, quand des choses comme ça se passent, on appelle ça l'effet Barbara Streisand.
Et c'est arrivé à Laurel.
Alors c'est plutôt l'entreprise. Hein. Alors est-ce que tu veux que recevoir des lettres d'avocat? Ça c'est une vraie question. Je te l'ai pas posée avant parce que est-ce qu'on dit le nom de l'entreprise? Comment ça se passe? Parce que la pauvre Laurel, elle avait pas demandé grand-chose. Elle a juste fait un copier-coller d'un.
Eh bien, nous allons simplement décrire les faits en toute objectivité, ce qui nous permettra de donner les noms. Ensuite, nous laisserons nos auditeurs se faire leur propre avis.
Non, mais ça peut être bien une lettre d'avocat, non? Bon, d'accord. Alors, en fait, Laurel a reçu une lettre d'une de ses lectrices parce que Laurel aime les petits chats, comme tout le monde sur l'internet, vu que les chats dominent l'internet.
C'est bon, les petits chats.
Voilà. Et cette lectrice expliquait qu'elle a mis un produit anti-puce contenant de la permétrine sur ses chats et qu'au lieu de tuer les puces, enfin ça a tué les puces, mais ça a aussi tué les chats. Voilà. Et le vétérinaire lui a dit c'est pas drôle, c'est vraiment triste, enfin, c'était des petits chats. Et en fait, le vétérinaire lui a dit que la permétrine était un produit qui était extrêmement toxique pour les chats. Pour les chiens, pour les autres animaux, ça va, mais les chats, il leur manque une défense immunitaire et du coup, ça les tue. Mais ce n'est pas écrit sur la bombe d'insecticide, en fait. Du coup, cette jeune fille se battait pour que, juste, il y ait une mention en disant « Faites gaffe, si vous avez des chats, ça peut les tuer, quoi ». Donc elle a juste fait un copier-coller de ce texte-là parce qu'elle a été touchée par la lettre de cette fille qui essayait de faire connaître un peu son histoire. Et elle a reçu un courrier, alors non même pas de l'entreprise, hein, mais directement de ses avocats, disant « si vous ne retirez pas immédiatement cette note de blog, on vous attaque ». Voilà, tout simplement parce que c'est de la diffamation, c'est mal, vous faites du tort à notre entreprise. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que comme Laurel a refusé d'enlever la note de blog, elle a quand même enlevé le nom de la boîte, le nom de la marque, et sur les conseils de Maître Eolas. Et du
Maître Eolas, c'est un avocat qui sévit sur Twitter, qui est très influent.
Et puis qui a surtout son blog. Hein,
et allez, enfin, allez lire
son blog, est formidable.
Bon, c'est du juridique un peu costaud parfois, mais voilà. Et puis il aime le foot, il est terroriste.
Et le rugby.
Et jouer un elfe aussi, non?
Ouais. Bah, Eolas.
Et donc, la société en question s'est dit bon, bah, on n'arrive pas à faire retirer sa note comme ça. Bah, c'est simple, on va appeler l'hébergeur. Donc, ils ont envoyé le même courrier à l'hébergeur. Hébergeur de Laurel qui est revenu vers elle en lui disant soit tu supprimes immédiatement la note, soit on ferme carrément ton blog, quoi. Voilà le monde dans lequel on vit.
Ce à quoi Maître Eolas aurait dit un truc, vous êtes dans votre droit, sinon ils auraient continué de s'attaquer à vous et pas à votre hébergeur.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais en même temps, et je suis sûr que l'hébergeur, il a même pas lu ce qu'il y avait dedans, il a reçu un courrier d'avocat, il a envoyé un mail type, et puis voilà, enfin, il y a eu des tweets un peu méchants contre l'hébergeur en leur disant, hé, l'État chinois a appelé, ils adorent ce que vous faites, enfin voilà.
Disons qu'en plus, ça tombait pile poil au moment où Tanks, qui est une autre blogueuse, avait des problèmes avec ce même hébergeur, des problèmes qui n'avaient rien à voir, hein, mais.
Non, mais du coup, ça s'est un peu déchaîné, mais bon, je pense juste que c'était un mail type et que ça s'est arrangé après, mais c'est vrai que du coup, moi, je comprends Laurel qui dit, je vais pas faire une note pour expliquer ça parce que c'est un coup à ce qu'il me supprime mon blog et que voilà. Mais forcément, après quelques articles bien sentis un peu partout, des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de vues, parce que l'article en question de Laurel a été repris sur des dizaines de sites miroirs, il y a eu des tweets,
un très bel article sur Rue 89.
Oui, Laurel faisant des dessins de temps en temps pour Rue 89, elle les a contactés, enfin voilà. Et du coup, la société en question a vraiment raté son coup de com', hein, pour le coup, parce que du coup, tout le monde sait que la permétrine tue les chats.
La demande à la base, c'était de marquer la permétrine peut être dangereuse pour les chats, même pas dire c'est. Voilà,
faites attention si vous avez des chats, la permétrine, c'est un truc qui peut leur faire mal. Enfin voilà, c'était juste ça.
Ils devraient mettre sur leur truc d'insecticide des trucs avec écrit tue les chats et des photos de chats qui font.
C'est ça. Il y a eu pas mal de lolcats qui ont été créés lors de ce... Il y a un Tumblr avec des lolcats contre la marque en question qui est assez marrant. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour parce que c'est toujours rigolo, les lolcats. Mais voilà. Mais en tout cas, la société a complètement loupé son coup de com'. Et maintenant, elle a la SPA et 60 millions de consommateurs sur le dos. Donc, c'est rigolo, quoi. Voilà la force d'Internet parfois.
On poursuit avec la grosse nouvelle. Alors, les gens nous ont dit que les news c'était peut-être un peu long, mais on est désolé, il s'est passé plein de trucs là.
Ah,
c'est
oui,
que
oui.
On a la sélection d'Angoulême qui est arrivée.
Ouh, ça y est, enfin.
Voilà, on sait un peu qui va être choisi. Et donc, on va pas les citer quand même. Hein.
Non, mais il y en a trop, quoi. Enfin, il y en a 58. Enfin, plus de 58, voilà.
58 albums dans la sélection officielle, 10 dans la sélection polar, 11 dans la sélection patrimoine.
C'est ça.
C'est le truc de malade.
De toute façon, c'est simple. Pour connaître les gagnants, il faut juste écouter ceux qu'on a chroniqués, quoi.
Voilà, c'est ça. Même s'il y en a certains que j'aurais bien aimé chroniquer.
Alors moi, je pense qu'on peut dire que cette année, c'est quand même une sélection qui est très très hétéroclite, quoi. Enfin, on a tout et ça fait plaisir, quoi. Par rapport à d'autres années, là, ils ont vraiment été chercher des BD un peu différentes de d'habitude. On a des nouveaux éditeurs. Donc c'est vraiment vraiment très sympa.
Ouais, il y a l'analyse de, je reviens toujours sur Bodoï parce qu'ils font de très bonnes analyses en général de Bodoï sur la sélection est super intéressante. Ils font un peu leurs pronostics. Je suis pas totalement d'accord avec tous leurs pronostics.
Moi non plus.
Mais c'est aussi parce que j'ai lu certaines choses qui sont passées un peu inaperçues et qui auraient pu fonctionner. Par exemple pour la révélation, moi je sais que le dernier cosmonaute dont on parle dans une de nos précédentes émissions. Le ferait bien.
Non, c'est Skins Party qui doit gagner ça. C'est Skins Party.
Révélation, battons-nous.
Non, mais oui, parce que c'était son premier album à Timothée Le Boucher. Enfin, c'est la BD qui m'a retourné cette année. Alors, il faut qu'il gagne quelque chose. C'est
Par contre, en vrai, je pense que Alter Ego, qu'on n'a pas lu, mais pour la meilleure série, a toutes ses chances, parce que j'en ai tellement entendu parler et que c'est la seule truc qui me ressemble à une vraie série dans toute la sélection.
Non, alors je pense qu'Alter Ego a vraiment toutes ses chances dans la série, parce que c'est vrai que c'est la première. première fois, ils ont vraiment essayé un nouveau concept narratif. Ça marche. Enfin, l'idée de puzzle, etc. Sortir 6 albums aussi rapidement, ça relève quand même du challenge et ils ont relevé le challenge bien comme il faut. Donc, vraiment, Alter Ego pour la série, oui, je pense qu'il faut qu'ils gagnent, quoi. Enfin, il n'y a pas de négociation là-dessus, voilà.
En tout cas, moi, ce dont je suis plutôt content, c'est que depuis cette année, sur toutes les sélectionnées, on a quand même réussi, on va parler de 11 des sélectionnées sur 58, ce qui est quand même pas mal.
Non, bah c'est bien, mais je pense que... Ouais, je pense que lire les 58, c'est quand même, savoir lesquels, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et alors pour le Grand Prix, à ton avis?
Ah, le Grand Prix, bah ça dépend. S'ils veulent se la jouer un télo, je pense qu'un 3 secondes pourrait le faire.
Oh. Ah, moi je pense qu'il va plutôt aller dans le prix là. C'est l'audace. L'innovation là où je sais l'audace. Pas quoi. Mais c'est ça.
Ouais, l'audace, mais ça dépend. Mais c'est vrai qu'il irait plus dedans.
Moi et je le vois Grand Prix... pas le Grand Prix pour 3 secondes, hein, perso.
Non, moi je t'avoue que je le vois plus pour de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas tout lu justement et que je sais qu'il y a quelques perles au milieu. Le Portugal.
Ouais, mais moi je pense que ça va se jouer entre Portugal et Paulina qui rafle à peu près la moitié des prix en ce moment.
Ah, Paulina, je le trouve sympa mais moins abouti comme histoire. Ça va moins toucher.
Ouais, non, mais enfin, bah, je sais pas si t'as vu, mais Bastien Vives a gagné le prix de la critique de l'association des critiques BD et tout ça, donc en général c'est un peu voilà. Ou peut-être les ignorants de Davodo, parce qu'il y a eu pas mal de critiques plutôt pas mal, donc je pense que c'est
par contre les melons de la colère ne sont pas sélectionnés, franchement ça craint.
Ouais,
une vie dans les marges aussi. Une vie dans les marges, c'est un super
projet. Une vie dans les marges, ouais.
Déjà, mais, je suis
peut-être
surpris,
intergénération, une vie dans les marges.
Je suis déjà super surpris qu'il soit sélectionné, en fait.
Pour de l'intergénération, une vie dans les marges, peut-être. Enfin bon, on va pas discuter, c'est une très belle sélection.
Très belle sélection.
Il y a de quoi faire, il y en a vraiment pour tous les goûts, surtout. Donc, le manga est pas mal représenté, en général, c'est pas toujours le cas.
Non, carrément. On a même du Kiyun dans la sélection, donc non, c'est vraiment vraiment sympa cette sélection. Cette année, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Tous les ans, ça rage un peu partout, etc. Mais là, pas grand chose à dire sur la sélection, quoi.
Voilà. Et puis de toute façon, on se verra pour en parler lorsqu'ils donneront les prix.
C'est ça.
Pas Angoulême. Enfin moi, en tout cas, avec toi, personne.
Toi, bah, j'y serai aussi, ouais.
Voilà.
Vous y serez.
On y sera. Ce sera beau.
On voulait parler ciné, mais là on a passé pas mal de temps. On va juste dire rapidement qu'il y a le trailer de Marsupilami par Chaba qui est sorti. On voit pas le Marsupilami dedans. On va lui laisser le bénéfice du doute, même si ça me semble très casse-gueule comme projet, parce que son Astérix c'était quand même très bien.
Ben voilà, enfin c'est quelqu'un qui aime la BD parce qu'il a fait un super Astérix, donc on va laisser le bénéfice du doute.
Ouais, bon, attends, tu veux dire un truc, mais il ose pas.
Non mais Astérix, c'était pas un Astérix, c'était.
C'était un Chaba, ouais.
C'était Jamel qui était dans un Chaba, quoi.
Ouais, mais ils vont peut-être nous le refaire, et Jamel aussi.
Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Ouais, moi non plus.
Ça revenait avec l'esprit Goscinny, etc. Enfin, voilà, il y avait vraiment des super idées, et voilà.
C'est du Goscinny, mais au goût du jour, pour moi.
C'est ça.
Bien fait. On est tombé sur un faux trailer de l'Incal, super sympa, bien foutu, franchement très très joli. On vous mettra le lien parce que moi j'ai adoré ce faux trailer.
Ça donnait pas envie.
Donne-nous les dernières nouvelles d'Akira, je pense qu'on va clôturer là-dessus.
Ouais, c'est de pire en pire. Enfin voilà, cette fois ce sera la cruche de Twilight qui va arriver dans Akira, qui va jouer Kei. Donc on en est là.
C'est pas une cruche, c'est que son rôle est comme ça. En fait, c'est une excellente.
Rappelle-moi ce que t'as dit dans le dernier podcast, toi, vis-à-vis de Twilight. Hein, rappelle-moi, Thio. Non mais Thio, il a des a priori, il a aimé Twilight.
Mais allez lire la dernière critique de Twilight sur Audio Connard. C'est quand même une fille qui pendant 4 épisodes ouvre la bouche tout le temps. Bon, enfin voilà, quatre films, elle a
pour
toujours la même expression faciale.
C'est moche ça.
Non mais sérieusement, faut arrêter.
Bon, et le Akira, il y a aussi quand même Ken Watanabe qui sape un peu plus
c'est
le
ça.
Faire.
Bah, c'est exactement ça.
J'ai lu le synopsis. Et voilà. Le synopsis, en fait, si vous avez lu la BD, en fait, vous l'oubliez.
C'est ça. Non, mais il garde pas grand-chose. Hein. Akira, patron d'un bar. Mais on est où là?
Akira, Kaneda.
Kaneda, oui, voilà. Oui.
Patron d'un bar, et Tetsuo, c'est son frère.
C'est ça. C'est,
voilà. Tu vas voir qu'ils vont plus être en moto, ils vont être en trottinette.
C'est ça. Même le mec de Tron, l'héritage, c'est pour la moto.
Tron, l'héritage pour la moto, c'est ça.
Attends, il y aura au moins qu'il y aura une Mustang.
On verra.
Aux
États-Unis, c'est obligé.
Ce qui est surprenant, c'est qu'ils gardent les prénoms japonais, quoi. Ça me fait sourire.
Non, mais espérons qu'il y ait un drame, je sais pas, et que le film ne se fasse jamais, quoi. Enfin, je pense qu'on en est là.
Ça sera peut-être mieux que Dragon Ball.
Ah, je suis pas sûr et ça a rentré tout le monde très triste. C'est-à-dire qu'on en est à ce niveau-là. Est-ce que ce sera mieux que Dragon Ball Evolution?
Merci beaucoup, Merton, pour toutes ces news. Tu es le bienvenu. En plus, tu es tellement bien accueilli. Tu nous fais venir tonnes de visiteurs. Grâce à toi, nous allons vraiment conquérir le monde.
Ah oui, c'est beau, c'est beau. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. On se voit mardi.
Allez, ciao.
Ciao.
Dans les bacs. Enfer et parodie chez Bac à BD, une bande dessinée de Johan Morin.
La vie fabuleuse, mais pas toujours facile des personnages.
C'est une BD d'humour caricatural qui s'amuse à reprendre de nombreux personnages populaires et à les mettre dans des situations rigolotes, je dirais, et un peu débiles, un petit peu en décalage avec leur vie de tous les jours. Sur des gags en une image la plupart du temps, toujours même d'ailleurs.
Toujours,
et on a entre 3 et 4, entre 2 et 4 gags par page. C'est assez classique, c'est bourré de personnages qu'on connaît.
Il y en a de toutes les sortes. Hein.
Toutes les sortes.
C'est les personnages de pub, les personnages de dessins animés, les personnages de films d'animation, les personnages de films tout court, de vieux dessins animés,
de jeux vidéo, de même Internet. La difficulté, bien entendu, c'est d'avoir la culture qui permettra de comprendre le gag, ce qui n'est pas toujours évident. Parlons déjà du dessin, je l'ai considéré comme efficace.
Efficace, et c'est clair. Parce qu'il y a même des fois, j'ai même eu des doutes de savoir si c'était pas les vrais dessinateurs.
Alors moi, non, je trouve qu'il a réussi à super bien s'approprier les personnages. C'est-à-dire que...
Regarde.
On voit que... Enfin, il y a son style à lui.
Bah, c'est Bob l'Éponge.
Ouais, mais c'est son style à lui, Yann Morin. Moi, j'avais déjà beaucoup aimé son style dans Zoomania. Non, c'était pas Zoomania, c'était A.
C'était Biozone.
Biozone. Pourquoi Zoomania? Je viens d'inventer un nom de BD. C'est génial comme nom de BD, c'est un concept. On va le faire. Donc dans Biozone, j'avais beaucoup aimé son style. Et là, je trouve que ça se va très très bien. On reconnaît toujours les personnages.
Et il dessine super bien les blondes.
Ouais. C'est très bien foutu. Et ça reste uniforme. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir 50 dessinateurs différents. C'est très très bien foutu à ce niveau-là. Au niveau des gags. Je trouve ça un peu plus difficile.
C'est un peu inégal en fait. Mais en même temps, c'est dans un film, dans une bande dessinée d'humour, c'est ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, donc je vais juste citer le maître, en disant que si on sourit 2-3 fois dans l'album, il paraît que c'est déjà une réussite.
Enfin, en tout cas pour moi.
Bon, j'ai dû sourire que 2-3 fois.
Moi, je dirais que difficulté principale de ce genre de truc-là, premièrement, c'est qu'il faut connaître les références. On ne les a pas forcément. Moi, je les avais la plupart. Pas forcément toutes. Les clins d'œil à Sesame Street, par exemple, c'est pas forcément évident pour moi. Mais oui, la plupart des références, je les avais, il n'y a aucun souci. L'autre difficulté, c'est la quantité. C'est le genre de gag, on lira un petit de temps en temps, c'est super sympa. Ça va super bien dans un magazine, dans un journal, etc.
Ouais, je veux dire, si tu les as pas tous d'un coup, là, c'est vrai que ça fait un peu recueil.
Il y a un peu la saturation, c'est pour ça que je pense que c'est une BD de toilette idéale où on peut lire un petit gag de temps en temps.
Ouais.
Maintenant, il y a un autre problème que j'ai eu, c'est que parfois les chutes, j'ai l'impression qu'il en rajoutait une couche. C'est-à-dire que le gag était sympa en soi, et puis d'un coup, il y avait la petite bulle en plus qui plombait le gag. Et j'avais un petit peu du mal vis-à-vis de ça. Par contre, globalement, moi, je trouvais ça très rigolo. Franchement, c'est sympa. Je pense que c'est le fait qu'il y en ait autant d'affilés qui fasse que...
C'est un peu indigeste.
Mais les gags, en soi, ils tiennent la route, ils sont très sympas.
Il y en a qui sont bien, mais il y en a qui... Enfin, comme je te disais, c'est qu'il y en a qui m'ont fait rire, il y en a qui m'ont moins fait rire, quoi.
Mais ça, c'est normal. C'est le principe d'une BD à gag. En tout cas, je pense que c'est un...
Bon, celui de Casimir m'a fait rire, quand même.
Ouais, bon. Mais je pense que
Le jour où ils inventent le Gloubi-Boulga, quand même, quoi.
Oui.
Respect.
Mais je pense que c'est une BD qui est très abordable pour les non-lecteurs de BD. Ils la sortent à peu près pour la période de Noël, ce que je trouve plutôt bien trouvé, en fin de compte. Parce que c'est le genre de truc qu'on peut offrir facilement. D'ailleurs, je pense qu'au Virgin, ils ne s'y sont pas trompés. Ils avaient une pile d'au moins une vingtaine d'enfer et parodies au Virgin. Donc, non, c'est la bonne petite BD cadeau pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en BD. Même si, pour le coup, il risque de passer à côté un peu des gags. Genre le gag où tu as tous les élèves de la bande dessinée. T'as Ducobu, t'as Titeuf, t'as... Enfin, tous ceux, je connais pas forcément tous.
T'as Spirou, Titeuf, Ducobu, et lui, c'est qui?
Hobbs.
Hobbs.
Calvin.
Calvin, Hobbs, c'est le tigre.
Oui. Voilà, donc non, c'est... C'est très bien trouvé, je trouve que c'est un bel hommage. Moi, c'est bien réalisé. C'est surtout ça qui vaut le coup. Mais c'est vrai que c'est le genre de projet qui se vendrait très très bien, je trouve, dans un magazine, dans un journal, etc. Reportage de Joe Sacco.
Alors là, c'est moins drôle déjà.
On n'a jamais fait de Joe Sacco. On a pas mal parlé de lui, parce que l'an dernier, avec Gaza, sa BD, il a beaucoup, beaucoup fait parler de lui. Je ne connaissais pas du tout son travail. On avait lu dans... 1997-2007. Ouais, 1987-2007.
Il était une fois.
Voilà, on avait lu une histoire de Sacco dedans. Et donc, on se retrouve dans un livre de reportage de guerre. On est purement dans du vrai reportage de guerre.
Un documentaire, quoi.
Pas du documentaire, du reportage.
Bah si, documentaire dans le sens où enfin, il te rapporte les actions qui se passent là-bas, quoi.
Ouais, mais...
J'ai presque l'impression de me balader avec lui, d'être sur son épaule, quoi.
Le documentaire, t'es plus dans l'enquête, quand tu es dans du documentaire. Le reportage, t'es dans le témoignage. Et d'ailleurs, c'est le mot que j'ai utilisé pour le scénario, j'ai mis témoin.
Trop réaliste.
C'est un recueil de nombreuses histoires qu'a écrit Joe Sacco dans les magazines, principalement. Donc que ce soit The Times, Courrier International, etc., qui sont donc compilés par théâtre d'opération. Je crois qu'on peut dire que par théâtre d'opération, c'est le bon terme.
Palestine, Irak, Tchétchénie...
Je ne l'ai pas fini encore. Malheureusement, je n'ai pas été assez rapide. J'en ai lu... J'ai lu à peu près le tiers et c'est déjà... Je suis arrivé à l'Irak, là.
Ouais.
Toi, qu'est-ce que tu peux dire un peu de ce qu'il raconte hein?
C'est bon, déjà c'est un gros pavé. J'ai mis du temps à le lire parce que je l'ai lu petit à petit. Je sais pas, comme si à chaque fois j'avais peut-être besoin de me remettre de chaque événement en fait.
Oui.
Parce que je trouve que c'est quand même très très très, c'est très lourd. Voilà, dans le sens à chaque histoire, ça suffit à peine quoi. Tu encaisses, oui. Et ensuite tu passes à la suivante.
Si on allait dans un autre coin du monde, ça sera sans doute plus... Ah bah non.
Non, c'est ça, c'est qu'en fait,
bah
tu commences déjà, donc c'est le tribunal de Haye, donc déjà, bon, c'est pas le truc super drôle, quoi.
Oui.
Qui a un témoignage assez court, hein, d'ailleurs, il y a une petite note qui explique à la fin ce qu'il a voulu faire.
Il y a des notes à chaque fois que... en fait, c'est vraiment fait par théâtre d'opération, et à chaque fin de théâtre d'opération, il y a une petite note sur... le sujet, comment ça s'est passé, et une critique aussi, je trouve ça pas mal, une autocritique de son travail, où il dit ça, j'ai pas aimé ce que j'ai fait, ça, j'aurais voulu le faire autrement.
Ou ça, j'ai pas pu le faire parce que il fallait que je colle au truc du Times.
Ouais, c'est super intéressant.
Enfin, c'est sur lequel qui.
En gros, il y a un des personnages qui l'appelle. Ouais, c'est un personnage qui l'appelle T.
Oui.
Et en fait, parce que c'est dans le Times, ils ont une charte qui dit qu'on ne doit pas donner le nom de personnage, on doit toujours mettre leur initiale, etc. Lui, il s'en foutait de donner le nom, la personne en question s'en foutait apparemment, vu que dans Gaza, il disait que dans Gaza, il cite son nom. Mais bon, il y a des chartes à respecter dans chaque journal, quoi. Faut se plier aussi.
Ouais, puis il a dû, voilà, c'est la fin, c'est un peu rire, quoi. J'ai dû certifier un rédac chef que les hachures à l'arrière-plan dans la seconde case de la dernière page n'étaient pas un prétexte pour caler des dizaines de petits crucifix dans mon histoire.
Oui,
c'était un travail pour le Times. Voilà, donc bon, c'est.
Ah bah, le Times, ils ont. Le problème quand on a un magazine comme le Times, c'est qu'on est obligé d'être super carré parce que le moindre truc peut être interprété. Enfin, c'est super sérieux comme magazine, quoi. Il le dit lui-même, il était super intimidé de travailler pour le Times.
Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'était pas très très content de son travail, pour l'occurrence. Mais du coup, c'est vrai que voilà, chaque histoire, c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment eu l'impression voilà, d'être dans un documentaire. Même si tu n'aimes pas le terme de documentaire, quoi, hein. Mais de me balader avec lui et de suivre, on va dire, son voyage, ses interviews et d'être vraiment voilà, dans le témoignage. On est témoin des scènes. Alors, le parti pris, il y en a un quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il ne reste pas neutre.
En fait, c'est les sujets, en fait. Il ne reste pas neutre. C'est-à-dire les sujets qu'il va donner. C'est-à-dire qu'il donne un peu son avis, de façon toujours en filigrane, mais il choisit ses sujets. Quand il va parler des gens qui sont déplacés, il va interroger des femmes particulièrement, parce qu'il dit « je vais m'intéresser au sujet de la femme ». Donc, il y a toujours ce point de vue-là. Moi, c'est la citation qu'il donne dans son... Dans sa préface. Il donne une citation de Robert Fisk qui donne exactement, je pense, ce que ça donne pour moi. Robert Fisk disait « Je dis toujours que les reporters devraient être neutres et impartiales du côté de ceux qui souffrent. » Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que il donne jamais Il va, genre, quand il est sur Gaza, il dit pas que les Palestiniens ou les Israéliens sont bien ou pas bien. Il voit juste les gens qui souffrent et il va les interroger. Et c'est ça qu'il veut montrer.
Mais quand on arrive à la fin du bouquin, on a quand même une grosse dose d'humanité qui rend, enfin, voilà, qui rend un peu triste, quoi. C'est pas... T'as peu de foi dans l'humain ensuite, quand même. Hein.
Oui, puis tu te dis que finalement, on vit dans le luxe.
Ah ouais, non, franchement.
La crise, faites-moi rire.
Augmentons la TVA des livres, hein, franchement.
Voilà,
on peut y aller,
je veux dire, non, n'augmentez pas la TVA des livres, parce que ce livre-là, il vaut le coup d'être acheté. Il est à 25 euros, donc chez Futuropolis. Il est en plus nominé. Donc,
Angoulême.
Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup sa chance, parce que il est. C'est un recueil, donc il y a beaucoup de trucs. C'est pas une œuvre. Hein. Il pourrait peut-être être sélectionné justement pour ce côté-là, c'est-à-dire que tu as des fragments des paysages du monde dans le côté regard sur le monde, par exemple, ça pourrait coller. Mais je pense.
Ouais, mais il est trop marqué au niveau temporel, quoi. C'est
ouais. Le dessin. Tiens, on en a pas parlé.
Très réaliste. Bah, enfin, moi, j'ai les deux mots qui me sont venus, ce sont réalistes des deux côtés, en fait.
Moi, j'ai mis portrait. C'est beaucoup de portraits. C'est-à-dire que moi, il y a des paysages, etc. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est des instantanés à chaque fois de moments. Mm. Chaque image est un instantané d'un moment. Paf. Vous essayez de capter une émotion, de capter un sentiment. Il se permet de temps en temps de faire des pauses dans le récit, parce que c'est toujours quelqu'un qui raconte. C'est toujours des interviews, hein, que c'est toujours oui. Des gens avec qui il va parler. Donc, il se permet de faire des pauses dans les récits, de les marquer, et où on a cette image de la personne où on sent sa réflexion intérieure, sa difficulté à s'exprimer, parce que c'est pas forcément évident. Et puis aussi, bah, le fait que lui, il se déplace toujours en journaliste, quoi, hein, avec ses gardes du corps, armés. Donc, il y a un a priori vis-à-vis de lui quand il arrive quelque part.
C'est le cas en Tchétchénie, je crois, où il ouais. Explique que ça n'a pas été facile au début de discuter avec les gens.
C'est un très très beau bouquin. C'est en noir et blanc quasiment intégralement. Mmh. Il y a quelques pages couleur, mais juste pour noter. C'est... Donc, si vous voulez vous plomber une soirée, lisez-le.
C'est intéressant, ça donne aussi quand même une autre idée de ce qu'on a pu voir dans les infos, quoi. On n'avait pas... Enfin, c'est vrai que voilà, de toute façon, les infos, on n'a jamais toutes les infos, mais ça donne aussi un autre aperçu de certaines guerres qui sont un peu méconnues pour nous.
Bah moi, enfin,
en tout cas pour moi.
Moi, j'ai l'impression, en le lisant, de retomber avec le journalisme, mais le journalisme héroïque. Tu sais, le journaliste de guerre, le gars qui est sur le terrain, qui va au fond des choses. J'ai l'impression de revoir cette image du journaliste des années 80 sur les théâtres d'opération, qui était un. Enfin, ils en ont fait des films, quoi. Mmh. Moi, c'est cette impression que ça m'a donné, quoi. Et c'est. Enfin, ce mec-là fait un travail, je pense, super important et super intéressant, quoi. Ça vaut grandement le coup. Si vous connaissez pas Joe Sacco, je pense que c'est une bonne approche. Parce que ça permet d'avoir déjà une évolution dans le temps. Et puis aussi beaucoup de points de vue différents sur différentes choses. Je pense que. Une seule histoire sur 150 pages dans le ton doit être ouh dur.
Pas à lire.
Si, à lire, mais.
À lire, ouais, mais bon, enfin, c'est un peu lourd, quoi.
Spirou et Fantasio.
Le nouveau tome de Johan Evelman.
La face cachée du Z, leur deuxième tentative. Enfin, troisième, en fait. Mais,
troisième, ouais.
Oui, mais leur deuxième tentative dans la série régulière. Nous sommes encore et toujours, comme toujours, dans Spirou et Fantasio, dans de l'aventure humoristique. Et nous, vous le savez, on aime Spirou et Fantasio.
Ouais.
Même ceux que les gens n'aiment pas, sauf ouais. Ceux de Nick et Quovin.
Ouais. Non, là, je peux pas contredire. T'as raison.
Johan Evelman reprennent la suite directe des intrigues qu'ils avaient lancées dans le tome précédent.
Alerte aux orcons.
Tout en faisant un tome qui reste globalement assez indépendant. Oui,
oui, oui, oui. La seule suite, c'est que c'est juste l'étane de Moulinsa.
Champignac.
Voilà, je disais que tout à l'heure, je te parlais de Tintin. Voilà, Moulinsa, tu l'as sorti. Et là, je suis non, c'est pas Moulinsa.
Voilà, le château de Champignac est quand même vachement plus rigolo que celui de Moulinsa.
Oui.
De toute façon, Champignac, c'est un prolo. Lui, il a pas de Nestor pour s'occuper de lui.
Il est parti.
Donc, nos héros se réveillent dans l'espace. Sur la Lune, où Zorglob les a invités à un petit peu de force pour leur montrer son grand projet de parc d'attractions pour milliardaires sur la Lune. Et bien entendu, ça se passe pas exactement comme ils veulent. Surtout que Champignac trouve ce projet assez infâme et en veut beaucoup à Sorglob de se lancer dedans. Et voilà quoi, c'est que je pense que
ça va résumer le truc. Ensuite, on est forcément dans un Spirou, donc on va avoir
de l'action,
de l'action, des rebondissements. On a aussi des petits clins d'œil sympas quand une star de cinéma demande à Spirou de défoncer sa chambre d'hôtel pour faire rebelle quoi. Et lui dit qu'il a quand même, je crois, 50 ans, 50 albums d'expérience quoi.
Donc, oui,
pour tout casser, il sait faire.
Oui, oui, il y a aussi les clins d'œil du milliardaire avec une chapka en marsupilami. Ouais. Ça m'a beaucoup fait sourire. Le russe, tu te dis, ah mon dieu, c'est terrible. Vu qu'ils n'ont plus le droit de mettre le marsupilami hein, dans Spirou et Fantasio, c'est devenu interdit vu que ça appartient à Marsuprod.
Ouais, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'ils trouvent un truc. Hein.
Ouais, une entente. Mais bon, c'est pas plus mal. Hein. Enfin, c'est un personnage qui était intéressant. Mais...
Ouais, mais ce serait bien qu'un jour on réussisse à retrouver toute la bande, quoi.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que du coup, le marsu prend la place de Spip, quoi.
Oui, voilà.
Parce que Spip, du coup, passe vraiment en second plan.
Spip passe en second plan et Spip est un personnage vraiment génial, qui est d'ailleurs très bien exploité par Velman. Mm. Ce n'est pas que le faire-valoir humoristique, c'est aussi le faire-valoir cynique. C'est-à-dire qu'il fait les commentaires sur ce qui se passe, mais de façon assez cynique. Il est genre, ouais, bah ça va, quoi. Enfin, j'aime beaucoup comme personnage. Le dessin. J'ai dit réapproprié.
J'ai dit adulte.
Pour moi, Johan, dans son tome précédent, était en train de prendre ses repères. Était très très franquinesque dans le style. Ici, énormément tenu.
Cette page de...
La page de garde, oui.
Ouais, la page de garde, elle est...
C'est très franquinesque.
Ça me fait penser à...
Ça y est, j'ai un...
Gaston ?
Oui, Gaston, oui.
À Gaston,
oui.
Quand il fait des crêpes avec qui font une golfière.
C'est ça, oui.
C'est exactement ça, quoi.
Ah, oui, oui, c'est sûrement ça. Oui, c'est exactement ça, en fait. Oh. Donc, c'était très franquinesque. Là, on voit que Johan a pris un peu plus ses aises. C'est un peu plus permis de se réapproprier le style graphique des héros eux-mêmes. Où on se retrouve avec ce dynamisme et ce modernisme qu'il y a dans son trait.
Mais d'où le terme d'adulte, je trouve. Ouais. Là, il s'est posé, quoi. Tu as vraiment une unité dans tout l'album, et c'est son Spirou à lui, quoi.
Voilà, il a réussi vraiment, et ça colle très bien. On est un bon mélange entre le moderne et l'ancien. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu signifier en disant que le scénario était baroque. Expliquer pourquoi après, vas-y, donne-moi ton mot.
Moi j'ai mis Z, c'est le retour.
Ouais,
quoi. Ça
ouais,
y est.
C'est le retour.
Bah, le Z est plus un gentil, quoi. Ça y est, c'est le Z, le retour.
Ouais.
Zorglub.
Donc oui, Zorglub retombe dans ce côté mégalomaniaque, sauf que moi ce que je trouvais très intéressant, c'est que s'il retombe dans son côté mégalomaniaque, c'est parce que Champignac, quand même, la joue pas cool.
Pas comme
c'est... Ouais, pas comme la joue pas cool. Donc j'ai trouvé que il avait réussi à justifier très habilement le revirement de Zorglob dans sa mégalomanie et que Champignac passait un petit peu pour le personnage déclencheur.
Le sceptique qui changera jamais d'avis, quoi. T'as été le mal un jour, tu le resteras toujours, quoi.
Ouais. Alors que les intentions de Zorglob sont très très bonnes au départ.
Il a même dû vendre son âme au diable, pour financer ses projets.
Donc voilà, moi j'ai dit baroque dans le sens où c'était à la fois classique et moderne. En fait, le en art, ce qui est baroque, c'est ce qui va prendre le classique et le détourner pour créer quelque chose de neuf. C'est-à-dire que en général, tu as le temps de période de classicisme et de baroque. C'est-à-dire que dès que le truc est trop classique, les gens vont aussi le détourner, de le contourner, d'aller au-delà, ça va devenir baroque. Puis petit à petit, ce baroque-là va devenir le classique, jusqu'à ce que quelqu'un le contourne, etc. Et là, c'est l'impression que ça m'a donné. Ils ont vraiment repris des intrigues très classiques, une façon de raconter assez standard pour du Spirou, mais ils ont mis le petit truc qui arrive à Spirou, on va pas vous dévoiler, mais il arrive un truc très particulier à Spirou dans ce tome, qui fait que, paf, on sombre dans le modernisme, et en plus, où Johan peut s'éclater sur le dessin. Vraiment, il s'éclate avec ce qui se passe à Spirou. Un très bon tome.
C'est, c'est voilà.
J'attends avec impatience.
Voilà, je veux dire, c'est un bon début. Il faut avoir la suite.
Voilà, j'attends avec impatience la suite. Non, je pense que Johan Evelman ont fait du très très bon boulot sur Spirou. Je suis impatient d'attendre. C'est l'an prochain, je crois.
S'ils
suivent le rythme.
Ouais, il faudrait être patient, je pense. Blotch! Page!
Bah, je t'appelle pour te donner les nouvelles. Je continue à suivre la petite troupe de survivants. J'ose pas trop m'approcher d'eux. J'ai l'impression qu'ils sont en train de devenir dangereux.
Ils sont combien ?
Ça varie pas mal. Là, au stade où j'en suis, ils ont rejoint une sorte de grosse communauté. Ils sont une demi-douzaine. Ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Mais j'ai craint qu'ils aient été beaucoup touchés.
Ils ont été mordus ?
Non. Tu te souviens des débuts ? Quand on savait pas d'où ça venait. Quand on s'est rendu compte que le gouvernement viendrait jamais nous aider. Quand les morts se sont réveillés.
Quand on est parti en ville ?
Ouais. C'était du côté d'Atlanta. C'est là que je l'ai vu la première fois.
Il était sur mon cheval, non ?
Il était sur son cheval, Rick, qui s'appelait. J'ai appris son nom un peu plus tard, quand des gens l'ont appelé. Il essayait de retrouver sa femme, son gosse. Et il a fini par les retrouver. Ils avaient fait un petit groupe de survivants aux alentours d'Atlanta. Lui, il était shérif avant. Et suite à un accident, il est tombé dans le coma. Il s'est réveillé pour découvrir le chaos dans lequel on vit depuis presque 2 ans. Et je l'ai vu avoir des hauts et des bas. D'abord, je me suis rendu compte que la grande difficulté, c'était pas seulement de survivre aux rôdeurs, ou aux marcheurs, comme on les appelle. Chacun a son petit nom. Certains les appellent les geeks, d'autres les zombies, les morts vivants. Rick préfère les marcheurs, mais ils ont trouvé qu'il y en avait d'autres types. Il y avait ceux qui allaient vers toi, il y en avait qui rôdaient sans trop d'esprit. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas eux qui étaient importants, c'était les gens qui entouraient Rick. D'abord sa femme, qui apparemment n'avait pas été très claire avec lui, de notre côté elle le croyait mort. Hein. Et son meilleur pote était là pour la réconforter. Et puis ils ont dû se retrouver à faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément dû. Son fils, par exemple, a dû faire des choix très difficiles. Et il continuera à en faire. Puis j'ai suivi toute cette petite troupe au fur et à mesure de leurs aventures. D'abord errant seul, construisant des communautés. D'abord dans une prison. Mais ça a mal tourné. Comme je disais, pas à cause des marcheurs, mais à cause des autres. Les autres gens. Je veux dire, dans le monde pourri dans lequel on vit, quand on voit des gens qui ont un endroit qui a l'air à peu près sûr, qui ont un endroit qui a l'air un peu plus sympa, on n'a qu'une envie, c'est venir s'installer avec eux. Mais on sait pas trop comment ils sont, ces gens. On sait pas trop s'ils voudront partager. Alors il faut faire des choses qu'on aurait peut-être pas faites avant. C'est la loi de la nature, la survie. Moi, je préfère rester à distance, suivre leur traînée. En général, c'est un peu tranquille. Sauf l'autre jour, quand ils ont réussi à attirer une horde vers eux. J'avoue que j'ai eu un peu chaud au cul. Je me suis enterré sous la boue pour essayer de m'en sortir. Ça n'a pas été facile. Et là où j'en suis, ben, ils ont retrouvé quelque chose qui a l'air à peu près stable. Une sorte de communauté où tout a l'air de se passer un peu mieux, mais je suis pas sûr que Rick et ses potes soient encore prêts pour rejoindre une communauté, pour retrouver la réalité. Ils ont été beaucoup marqués, ils ont beaucoup perdu. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de morts depuis le début de son aventure. Beaucoup de personnes qui leur étaient chères. Et ils ont dû tuer des gens aussi. Tout ça pour survivre.
Des vrais gens ?
Ouais, je l'ai dit. Hein. Les marcheurs, ils sont pas si dangereux que ça, on sait comment ils fonctionnent. Mais on sait jamais, jamais comment va réagir un être humain. Je vais te laisser. Je vais retourner voir ce qu'ils font. C'est assez addictif comme histoire. Quand on les suit, j'ai l'impression d'être un peu un voyeur qui les regarde, mais de ne pas être capable de m'arrêter. Et j'ai hâte de savoir ce qui les attend, même si ça fait un peu trop longtemps que c'est calme. beaucoup trop calme. Et je sais que ça dure jamais. Je vais te laisser. Je vais raccrocher ce téléphone qui est pas branché. Je sais que t'es pas vraiment là, et je sais que... Depuis qu'ils t'ont chopé, t'es plus vraiment mon frère. Je te traîne avec moi, accroché à une chaîne. Je t'ai coupé les bras, pour pas que tu puisses me faire grand-chose. Je t'ai éclaté les dents, pour plus que tu puisses me mordre. Et je me dis que... Il serait peut-être temps que, comme la petite troupe de Rick, je fasse les choses qu'il faut faire. The Walking Dead, la série de Robert Kirkman qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'elle, notamment grâce à l'adaptation en série télé de la chaîne AMC. Je le disais, The Walking Dead, c'est la série à faire lire à vos amis pour qu'ils vous offrent la suite. J'ai commencé très tardivement. Et j'ai passé un moment, le tome, c'était le 6, hein, Athio ?
Le 6, ouais.
Il est revenu avec le 6 et le 7. Et puis mon frère est passé à la maison, et là, je lui ai passé le 8, parce qu'ils avaient lu jusqu'au 8. Et là, il est revenu avec le 9 et le 10. Et là, j'ai mon frère qui est repassé il n'y a pas longtemps, et d'un coup, pouf, je les avais jusqu'au 13. Il y a 14 tomes à l'heure actuelle. Un tome de Walking Dead, c'est 6 mois de publication américaine, car c'est une série mensuelle, qui dure donc depuis 7 ans.
Tant que ça.
Ouais. Et ouais. Ah, 14 numéros en France. Donc ça fait 7 ans que ça dure, et ça ne change pas au niveau du rythme. C'est du noir et blanc, on va dire niveau de gris. C'est dessiné principalement par Charlie Adlard, même si c'est Tony Moore qui a commencé. Et les niveaux de gris, tout ce qui est trame, sont faits par Cliff Rasburn. Il y a un gros travail sur le noir et blanc qui passe très très bien, qui colle très très bien à l'esprit de cette série. Robert Kirkman est un auteur qui est un peu sorti du néant. Il avait commencé à faire avec un pote à lui qu'il avait rencontré au lycée, Battle Pop. C'était il y a un petit moment, d'ailleurs la série Battle Pop est sortie, c'était en 2000. Que c'est sorti aux États-Unis, c'est sorti il y a un ou deux ans en France, chez je ne sais plus quel éditeur. Eric Larsen l'a remarqué, Eric Larsen qu'on connaît pour Savage Dragon, et l'a fait bosser sur la série Super Patriot. Avec comme dessinateur Cory Walker. Cory Walker, qu'on a retrouvé ensuite sur la série Invincible, dont on a déjà parlé. Avec Invincible, il a commencé à créer exactement ce qu'il a fait ensuite avec la série Walking Dead. Il a pris une thématique vraiment basique, et il l'a remise au goût du jour en oubliant tout ce qui existait avant. Sur Invincible, c'était simple, c'est un jeune qui a des super pouvoirs, et son papa est un super héros. On se retrouve avec les thématiques classiques du jeune ado à super pouvoir, et lui, il en a fait quelque chose où il a brisé tous les codes, tout en les suivant en même temps. Sur The Walking Dead, il a eu à peu près la même approche. Alors, il a aussi commencé avec Tony Moore, son pote d'enfance, mais Tony Moore est passé rapidement à autre chose pour laisser la place à Charlie Adlard. Alors, Tony Moore avait un style peut-être un peu plus, je dirais, humoristique, caricatural, graphiquement. Ouais. Et c'est vrai que le fait que Charlie Adlard soit passé derrière a donné, au niveau de l'ambiance, quelque chose de plus sombre. Charlie Adlard avait pas fait grand-chose de très connu avant. En France, on avait pu le voir dans quelques épisodes de X-Files, parce qu'à un moment, on a eu le comics X-Files qui est paru en France, en kiosque. Je dois en avoir un tome là-haut, d'ailleurs. Alors, c'était il y a très longtemps, le dessin n'était pas très très net, j'étais pas encore en plus très très ouvert au style sombre et un petit peu stylisé. Charlie Adlard, il a un dessin qui vraiment gère très bien le noir et blanc, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est des grosses pointes de noir, des bonnes touches. Il sait mettre la lumière quand il faut. Il sait accentuer les expressions des personnages. C'est jamais très réaliste. Il va savoir quand faire un gros plan où il va bien tirer tous les traits et avoir un visage réaliste. Mais il sait aussi quand prendre du recul par rapport à son dessin pour laisser une impression et une ambiance. J'aime beaucoup son travail. Certains diront que au niveau du dessin, c'est pas terrible. Oui, mais je pense que c'est parce qu'il cherche plus à faire passer une émotion qu'à faire passer un réalisme graphique. Et puis il faut voir aussi qu'il doit se taper ses 22 planches par mois.
Et puis ça fait partie du truc, quand tu vois certaines planches où tu as le visage de Rick qui est... Enfin, c'est souvent un peu dans la pénombre, quoi. Et oui. Quand t'as que des morceaux de visage, je trouve que ça renvoie encore plus d'informations que si t'avais un truc super réaliste, quoi.
Sans le comparer à un Mignola, parce que c'est pas du tout le même style graphique, il est, je dirais, dans un entre-deux entre quelque chose à la Mignola avec des noirs très tranchés et un style réaliste. Il est entre ce côté stylisé, ce côté réaliste, un juste milieu, qui en plus est accentué par les trames de Cliff Rasburn, qu'on a tendance à oublier, mais qui fait quand même, comme les coloristes hein, d'ailleurs, qu'on a tendance à oublier en général, qui fait un super boulot derrière. Donc la série se poursuit, c'est super dur d'en sortir. Tuo, tout à l'heure, pour commencer l'émission, ça a été très très dur de l'arracher du tome 13 qu'il n'a pas encore fini.
Je l'ai toujours pas fini.
Tu l'as toujours pas fini, mais bientôt tu pourras. La série a été adaptée en série télé. J'ai vu les premiers épisodes. Pour le moment, c'est assez fidèle, même si on rajoutait des choses. Kirkman, en gros, disait qu'il se permettait de faire des choses qu'il ne s'était pas permis dans Walking Dead, pour une raison très simple, c'est qu'il ne savait pas si Walking Dead allait durer 2-3 mois. Enfin, il ne se doutait pas que ça durerait aussi longtemps. Lui, son point de vue, c'était de se dire « on va prendre une histoire de zombies ». Et on va raconter ce qui se passe après le générique. C'est-à-dire les survivants. On commence, on est dans dans du survival horror, on continue avec du post-apocalyptique. Les premiers épisodes sont du survival horror et encore de la fin de survival horror. Pourquoi ? Parce que la crise, le drame de départ, s'est déjà passé. Ça, c'est le film. On est après. C'était un peu le point de vue de 28 jours plus tard. D'ailleurs, un film de zombies.
C'est vrai. Pour la première fois, les zombies couraient.
Oui, aussi, où les zombies couraient pour la première fois. Ils courent pas beaucoup dans The Walking Dead.
Ah, si, non, ils marchent vite.
Ils marchent vite, ouais.
Mais ils marchent. Ils ne courent pas.
Et puis, on commence petit à petit maintenant à s'intéresser à leur fonctionnement. Parce que c'était vraiment des personnages très secondaires, en fait. C'est juste le danger qui est toujours là et qui peut frapper à n'importe quel moment. C'est une BD qu'il ne faut pas feuilleter. Surtout pas. Parce que c'est bourré de surprises non-stop et que la surprise, en général, c'est une belle splash page dans ta gueule où tu fais et tu hésites avant de tourner la page pour être bien sûr que tu as bien vu ce que tu as vu. Pourtant, c'est dessiné en grand.
Hein. Ouais, non, mais il y a des fois où tu restes coaché, tu fais non.
Non, ils peuvent pas.
Il peut pas. C'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Si, 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 il le fait. Et le pire, c'est qu'en le faisant, il te rajoute de l'intérêt sans tuer le suspense. Voilà, tu t'attaches à des personnages, il y en a qui partent. Il y a des choix qui sont faits et des fois.
Il peut leur arriver des choses horribles.
Je dirais pas horribles, monstrueuses. Des trucs innommables qui passeraient au tribunal de La Haye d'ailleurs, je crois.
Oui. Donc la série télé est assez décriée, donc moi je n'ai pas vu assez pour arriver au passage qui apparemment serait mauvais. Pourquoi ? Parce que c'est éloigné de la BD, la série télé. Ce qui n'est pas forcément un mal, je trouve ça bien de se dire que je peux avoir une surprise en regardant quelque chose qui soit dans le même ton. Mais apparemment, certaines choses qui sont fondatrices de la BD ne sont pas mises en place. Par exemple, dès la fin du premier tome, voire du deuxième, je ne sais plus, il y a un personnage important qui meurt, qui ne meurt pas dans la série télé. Et qui meurt dans des circonstances qui sont vraiment...
Très différentes.
Enfin, dans la BD, ce personnage-là meurt dans des circonstances qui sont la petite graine qui va germer encore jusqu'au tome 13, là.
Je veux pas être faible.
Voilà, je veux pas être faible, je pense que ça, on voit ce qu'on veut dire. Désolé si on est un peu flou, mais je préfère pas vous gâcher le suspense. Alors que c'est quelque chose qui est pas dans la série.
Ah merde, pardon.
Oui, merde, donc on se dit, merde, est-ce qu'ils vont réussir à garder ce niveau-là. Alors j'attends de voir la série pour me faire mon avis, mais apparemment les critiques sur la saison 2 sont globalement mauvaises. Si vous avez un avis, on vous écoute, hein. Je serais assez curieux. Que dire de plus ? Kirkman est devenu un des gros patrons d'image. Il est le premier à avoir rejoint Image Comics après que ça a été créé. Il est le seul d'ailleurs. Faut dire que les ventes de Walking Dead sont super bonnes. Attendez, une BD en noir et blanc qui soit pas de super-héros qui dure 7 ans. T'as vu ça où aux États-Unis? En France, c'est un carton phénoménal. Les éditions Delcourt ont fait un bon boulot. Bah, c'est vrai que pour 13,50€, on a une BD où on a de quoi faire, quoi. Hein.
T'as de quoi lire, c'est de la bonne qualité.
Bon, ça se lit un peu vite, mais ça, c'est parce que.
C'est parce que c'est bon aussi. Mais non, franchement, c'est. Et puis je trouve que les couves, comme je te disais tout à l'heure avant l'émission, c'est. Il y en a certaines qui commencent à avoir une symbolique, quoi, qui est puissante et lourde, quoi.
En parlant des couvertures, c'est un des regrets, malheureusement. Ils mettent les couvertures originales à la fin. Malheureusement, ouais. Comme c'est un bouquin en noir et blanc, on a les couvertures en noir et blanc. Heureusement, Delcourt a pensé à tout en sortant un artbook qui est sorti ce mois-ci, qui contient toutes les couves couleurs avec commentaires, etc. À noter aussi le travail du traducteur, Edmond Touriol, qu'on suit un petit peu.
Que tu encenses quasiment à chaque émission.
Quand il y a un bon traducteur, il faut le faire, quoi. Qui sait être invisible. C'est surtout ça, en fait. Le traducteur, il fait son boulot quand tu vois pas qu'il y a un traducteur. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ah, en anglais, c'est ça qu'ils ont voulu dire?
Je suis une buse en anglais. Moi.
Ouais, ok, c'est peut-être pour ça. Mais bon, la traduction est très bonne, surtout qu'il y a parfois des choix qui doivent pas être évidents. Que ça sort à un rythme de métronome en France. Hein. Ça y est, ils ont trouvé leur rythme. Hein. Tous les 6 mois, on sait qu'on va avoir notre album de The Walking Dead. Il y a aussi sorti ce mois-ci un album Making of sur la série, qui est sorti. Voilà, c'est oui, bah, prépare les cadeaux de Noël. Hein. Ils auraient tort de s'en priver. C'est vraiment quelque chose que je recommande. On n'a pas donné nos mots, parce que c'est vrai que sur les splash pages, c'est pas forcément évident. Pour le dessin, j'ai mis sombre.
Mortel.
Et pour le scénario, j'ai mis séquestration. On est emprisonné dans le livre, de page en page, et c'est très très dur de s'arrêter quand on a fini un tome. Les premiers tomes sont un peu, je dirais, plus faibles.
Bah, parce qu'ils sont en train de. Enfin, il a fallu. Enfin, il faut créer le groupe pour que justement. Tu as envie de suivre son histoire, quoi.
Ouais, enfin le groupe, il le détruit régulièrement. Hein.
Oui, mais c'est parce que s'il l'avait pas créé, enfin s'il y a pas un groupe qui se crée, forcément t'as pas envie de suivre l'histoire.
Oui.
Et donc moi, du coup, pour le scénario, tu vois, c'est la chute, parce que j'ai de plus en plus peur de la chute, en fait.
Kaufman a dit qu'il continuerait cette série tant qu'elle se vendrait, qu'il avait des idées jusqu'à la fin.
Ouais, mais la chute dans le sens pas seulement la fin.
Alors maintenant, la question
physique de la chute,
la grande question que je te pose. Eric peut-il mourir? Ha!
Moi je pense qu'il peut.
Il peut, mais qui prendrait le relais en tant que personnage fil conducteur? C'est quelque chose. Il faudrait quelqu'un.
Le petit cow-boy?
Un peu jeune.
Non. Ah, il est plus jeune. Je dirais tout ce qui s'est passé, il est plus jeune du tout.
Plus jeune dans sa tête. Voilà, une très bonne série, très humaine, de l'horreur humaniste, comme on l'a donné, que je recommande grandement. Ça fait longtemps qu'une série feuilletonnante, parce que c'est ça qui est important dans cette série, c'est le côté feuilletonnant, ne m'avait pas autant emporté, et aussi loin surtout. Parce que là, on va arriver à les rattraper, on arrive bientôt au 14, on va être au même rythme qu'eux, on devra attendre 6 mois entre chaque tome, Monsieur Thio.
Ouais, mais bon. Mais là, déjà, on a eu des pages qui nous ont bien séché, quoi. Pour ceux qui ont déjà lu, je crois que c'est le tome... C'est Les Chasseurs, c'est le 10, il me semble.
Ouais. Oui, il y a un tome avant.
Non, c'est le 11, Les Chasseurs.
Le Une vie de souffrance, le 8 et...
Ah, Une vie de souffrance, déjà, ouais, il te sèche un peu. Mais Les Chasseurs, moi, ça a été le tome... en plein milieu, je me suis arrêté en me faisant... Waouh. Ouais, ils en sont là, quoi.
Alors voilà, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de Walking Dead. Sur les premiers tomes, c'est sympa sans plus, parce que ça ressemble à 28 jours plus tard, qu'on est dans quelque chose qui.
C'est du survival horror,
voilà,
quoi, au début.
C'est dès que ça devient post-apo, en fait. C'est dès que ça devient post-apo et reconstruction de la société, voilà, que vraiment.
Une vie, quoi.
On redevient sur quelque chose d'intéressant.
Online!
Et on va vous parler de The Realist, le blog de Asaf Hanouka, où toutes les semaines, Asaf Hanouka essaye de nous proposer une petite planche, un petit dessin sur son état d'esprit, ses pensées, sa vie de tous les jours. Ça va parler aussi bien de la vie de couple que de comment il se sent, ce qu'il ressent en lui. Ça a une particularité, c'est que c'est bilingue. Et malheureusement, dans les deux langues en question, il n'y a pas le français. On est dans du bilingue anglais hébreu, car Asaf Hanouka est israélien, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le seul pays où on parle hébreu, hein, l'Israël.
Je crois bien, oui.
Ouais. C'est une BD très très intéressante. Moi, je trouve son dessin superbe. Je trouve ses idées fantastiques. On est vraiment de temps en temps pris dans un quotidien. Il y a un côté un peu mélancolique. Et je me suis vraiment bien pris au jeu de le suivre. J'attends toujours son histoire suivante avec plaisir. Alors, Asaf Hanouka parle français, parce qu'il a fait une partie de ses études en France, mais considère ne pas le maîtriser assez bien pour proposer la traduction française de ses BD. Et je disais sur Google Plus il y a peu que si des gens veulent le traduire, ça lui ferait même plaisir. Donc je vous recommande The Realist. Toi, tu avais vu quelques pages tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en as pensé?
C'est au niveau du graphisme, c'est assez sympa, et puis les idées sur certains dessins qui m'ont quand même bien plu, le gamin dans la tête de l'adulte,
ouais, ou le combat de boxe avec sa femme,
le combat de boxe avec la femme aussi, c'était sympa. Non, voilà, il y a des graphiquement, c'est intéressant, même au niveau du gaufrier, de la mise en page, c'est recherché.
Une planche sur son passage dans un musée d'art contemporain qui est très très travaillée, très intéressante.
Non, voilà, c'est assez sympa à lire.
Voilà, et puis en plus, c'est vrai qu'une planche de temps en temps, par semaine, je trouve ça très bien. Il y a aussi un blog où il montre, enfin un site où il montre ses dessins classiques. Il travaille beaucoup pour la presse et il y a des trucs assez superbes. On notera aussi que Asaf Hanouka, c'est vraiment de l'anecdote de chez Anecdote, un frère jumeau, Tomer, qui fait aussi des putains de dessins de la mort. Voilà! Eh bien, nous allons pouvoir nous quitter ici. On devrait se retrouver mardi, qui sait ?
Peut-être.
Hein, à 21h. Ça serait cool de vous avoir dans la chatroom et de vous faire coucou. Ça sera sur le site de Bad Geek. De toute façon, je vais mettre tous les liens de partout autant que possible. Badgeek.fr/live, en théorie, si je ne me trompe pas. Vous pouvez bien entendu laisser des commentaires sur Facebook, sur iTunes, me suivre sur Twitter, tout est disponible sur le site, laissez-nous des commentaires aussi pour nous dire si vous avez aimé cette émission, si vous voulez qu'on revoie des choses, qu'on essaye de s'améliorer, car nous sommes toujours en train de nous améliorer pour vous proposer la meilleure émission du monde, la nôtre.
Wow.
Ciao, à bientôt.
Ciao.